bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les États-Unis n'ont toujours pas de président ce matin, mais un scénario prend forme. Joe Biden se rapproche de la barre fatidique des 270 grands électeurs. Quand Donald Trump, président sortant, dépose lui des recours. Nous ferons le point dès le début de ce journal sur cette stratégie et vous entendrez la frustration des électeurs dont les bulletins ne sont toujours pas comptabilisés. Retour ensuite sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire en France. L'opposition crie au scandale à l'Assemblée car le gouvernement a eu besoin de 3 votes pour faire passer son texte. Nous irons dans l'hémicycle dans quelques minutes. Et puis, direction Vienne, à la rencontre de musulmans autrichiens. Ils craignent un amalgame après l'attaque revendiquée par le groupe État islamique. 4 personnes, je vous le rappelle, ont été tuées lundi soir. L'assaillant a été abattu. Joe Biden est aux portes de la Maison-Blanche, mais le démocrate peine encore à franchir les derniers mètres. Le candidat à la présidentielle a obtenu le soutien d'au moins 253 grands électeurs sur les 270 nécessaires. 264 même pour Joe Biden, disent certains médias. Sauf que Donald Trump, candidat à sa succession, lui, multiplie les recours en justice pour tenter de stopper les dépouillements. Nous accueillons Jean-Marc Four en direct de Washington. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour à tous.
Pouvez-vous nous expliquer la stratégie de Donald Trump?
Il faut un peu imaginer Donald Trump comme un boxeur sur les rings. Il est un peu sonné, il a pris des coups avec la perte du Wisconsin et du Michigan qui rapproche sérieusement Joe Biden en effet de la Maison Blanche. Mais Trump se bat, il ne lâchera pas prise jusqu'à la dernière minute, voire il ne lâchera pas prise du tout. Donc sa stratégie, pour vous répondre, tient en deux axes. D'abord, il engage des poursuites contentieuses dans au moins 3 États, peut-être 4, le Michigan et le Wisconsin où le dépouillement est terminé, et puis surtout la Géorgie et la Pennsylvanie où le dépouillement n'est pas encore achevé. Dans ces derniers cas, les ultimes dépouillements, ceux de vote anticipé et postaux, pourraient sur le fil faire basculer le scrutin dans la besace de Biden et lui assurer pour le coup la victoire au plan national, parce qu'on le sait, ce sont essentiellement les électeurs démocrates qui se sont déplacés avant le jour J. La deuxième stratégie de Donald Trump, c'est de continuer à galvaniser ses troupes en se proclamant vainqueur et en dénonçant ce qu'il appelle le trucage des derniers dépouillements, et ses partisans le croient. Ça conduit donc certains de ses pro-Trump à manifester ici ou là pour faire arrêter le dépouillement de ses derniers votes. On a vu des rassemblements de ce type ces dernières heures dans le Michigan, en Géorgie, en Arizona. Et là, on est quand même à la limite d'un processus insurrectionnel pour entraver la bonne marche démocratique. À ceci près que c'est donc le premier élu du pays qui cherche à déclencher cette forme d'insurrection. C'est quand même assez sidérant.
Merci beaucoup Jean-Marc Four pour ces premières analyses. Ce matin, je vous propose justement d'écouter un reportage auprès d'Américains qui, eux, ont voté par correspondance ces dernières semaines avant le vote sur place. Certains ont manifesté contre Donald Trump hier soir aussi dans le pays. Jérôme Jadot a rencontré ses électeurs.
Hier encore, le bulletin Biden que Ruth a envoyé dans le Maine n'avait pas été dépouillé. Elle peut suivre le processus via Internet. Inconcevable à ses yeux que sa voix ne compte pas.
Le but d'une élection, c'est de compter les bulletins. Je ne vois pas où est le problème de compter les voix de personnes qui ont voté par courrier pour éviter le coronavirus.
Même pour Dan, républicain qui a aussi voté par la poste, il faut tout simplement respecter la loi.
Il serait prudent d'exiger l'envoi des bulletins pour qu'ils arrivent avant le jour du vote. Mais la Constitution n'impose pas la prudence. Elle autorise chaque État à faire ses lois. Donc si le bulletin a le bon cachet de la poste, bien sûr qu'il doit être compté.
Et si ça n'est pas le cas, cela va peser sur la démocratie à long terme, redoute Alda. Elle a voté par courrier dans la capitale.
On risque de décourager toute une génération d'électeurs pour les prochaines élections. Ce qu'on fait en ce moment, cela va vraiment créer un précédent sur la confiance ou la méfiance envers notre système politique.
Et pour faire passer le message, Alda se déplace désormais dans les rues de Washington avec un t-shirt où l'on peut lire « Comptez les votes ».
Pour connaître les grands enseignements des premiers résultats électoraux, rendez-vous sur notre site franceculture.fr où notre équipe numérique vous propose de nombreux articles sur cette présidentielle. Le Sénat français va procéder aujourd'hui à la dernière lecture du projet de loi qui vise à prolonger l'état d'urgence sanitaire. Le texte voté et transmis hier soir par les députés prévoit finalement une prolongation jusqu'au 16 février prochain. Avant-hier, l'opposition dans l'hémicycle à l'Assemblée avait pourtant réussi à contenir cette prolongation jusqu'à la mi-décembre, pas plus. Mais le gouvernement a fait revoter in extremis les députés pour que la majorité soit plus nombreuse, Stéphane Robert.
Mardi soir, l'opposition avait réussi à faire adopter une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 14 décembre seulement, ce qui avait provoqué une grosse colère du ministre de la Santé, Olivier Véran. Le gouvernement a donc réclamé hier soir un deuxième vote sur deux amendements qu'il a déposés. Brigitte Bourguignon est la ministre déléguée à l'autonomie.
L'objet de cet amendement vise en seconde délibération à rétablir la date du 16 février 2021.
Je mets cet amendement aux voix. Avis favorable qui est pour, qui est contre. Il est adopté.
Dans la foulée, l'opposition s'est récriée, notamment par la voix de Jean-Luc Mélenchon.
Admettez cette idée qu'un Parlement comporte une majorité et une opposition. Et vous venez de nous faire une démonstration qui nous inquiète du peu qui avait été modifié par l'amendement de nos collègues qui, au fond, prévoyait une clause de revoyure. Vous l'avez envoyé balader. 6 mois donc d'état d'exception.
Même discours à droite, le député Les Républicains de la Manche, Philippe Gosselin, avait du mal hier soir à l'issue du vote à accepter le retournement de situation.
Ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'avoir un Parlement qui est simplement une chambre d'enregistrement. Or, c'est ce qui vient de se passer. Nous, nous sommes responsables. On a voté l'état d'urgence au mois de mars. Nous avons donné les moyens au gouvernement de travailler. Mais bon sang de bois, est-ce qu'on doit donner tout les pouvoirs.
Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat. Les sénateurs vont s'y pencher dans la journée. Après quoi, il retournera à l'Assemblée pour adoption définitive. Le pays sera alors placé sous le régime dérogatoire de l'état d'urgence sanitaire pour 3 mois et demi supplémentaires.
Stéphane Robert pour France Culture. À partir d'aujourd'hui, la SNCF supprime 70% de ses TGV, une partie de ses TER également, à cause, dit l'entreprise, de la baisse de la fréquentation. Ce pourrait être le cas aussi dans les transports en Île-de-France. Voilà ce que dit la présidente de la région, Valérie Pécresse. Notez que pour les routiers, 250 relais seront finalement ouverts dès samedi. Le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari, leur a assuré cela hier. Aujourd'hui, c'est l'Angleterre qui débute un nouveau confinement pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid-19. Confinement pour 56 millions d'habitants. Il devrait durer 1 mois. Tandis que l'Italie et Chypre se préparent de leur côté à vivre sous couvre-feu dès 22 et 23 heures. Et c'est pour gérer cette crise sanitaire en Europe qu'Emmanuel Macron remplace sa visite à Vienne, prévue la semaine prochaine, par une visioconférence. Le président français doit parler à distance donc de la lutte contre le terrorisme avec le chancelier autrichien Sébastien Kurz, et ce après l'attentat qui a fait lundi soir 4 morts à Vienne. L'assaillant, abattu par la police le soir de l'attaque, était un sympathisant du groupe État islamique qui a d'ailleurs revendiqué cette attaque. Les musulmans en Autriche ont maintenant peur des amalgames Isorias.
Au sein de la communauté musulmane d'Autriche, qui compte 700 000 membres, certains avouent être inquiets après cet attentat, à l'instar de Wissam, un étudiant tunisien.
Je suis ici depuis 2 ans et demi, je trouve les Autrichiens très accueillants, mais je sais qu'après une attaque comme ça, que ce soit en France, en Allemagne ou dans n'importe quel autre pays, la xénophobie et l'islamophobie augmentent, et c'est, je crois, ce que craignent la plupart des étrangers et des musulmans ici.
La peur d'être discriminé, Touran la partage, car depuis l'attentat, ce jeune musulman d'origine turque se sent stigmatisé. De cette attaque, mieux vaut, selon lui, retenir les quelques actes héroïques qui ont eu lieu.
Je suis content que 2 musulmans turcs aient sauvé un policier et une femme, car ça donne une bonne image et ça permet peut-être de faire un peu disparaître les préjugés. Mais quand on regarde tout ce qui a été écrit sur les réseaux sociaux, ça fait mal.
Les musulmans comme Yachar attendent désormais du gouvernement une réponse ferme et ciblée.
L'État doit contrôler davantage ces groupes islamistes radicalisés. C'est même un peu tard, il aurait fallu commencer il y a 20 ans. La République doit lutter contre cela, mais pas en mettant tout le monde dans le même sac, car sinon elle s'en prend aussi à nous, à mes enfants.
Le chancelier conservateur Sébastien Kurz, qui après avoir gouverné avec l'extrême droite, dirige le pays depuis 10 mois avec les Verts, a promis de lutter contre l'islam politique. Il estime que l'Union européenne doit à l'avenir beaucoup plus se concentrer sur ce problème.
Un sujet effectivement abordé avec Emmanuel Macron donc lundi prochain par visioconférence. C'était Isorias à Vienne pour France Culture. Pas d'apaisement en vue en Côte d'Ivoire. L'ancien Premier ministre Guillaume Soro, qui est en exil en France, appelle l'armée à agir contre le régime. La réélection du président Alassane Ouattara pour un 3e mandat n'a pas encore été validée par le Conseil constitutionnel sur place. Depuis le scrutin contesté samedi, sachez qu'au moins 13 personnes sont mortes dans des violences dans le pays. En France métropolitaine, ce jeudi sera une belle journée automnale. Après les quelques grisailles matinales sur le nord-est, le soleil prendra ses aises. Sous des températures bien fraîches, ce matin il fait 4 degrés à Lille, 5 à Paris, 6 degrés à Rennes, Strasbourg et Bordeaux, 8 degrés à Lyon, 16 à Marseille.